Il a pris deux balles, expliquait Didi à Miller qui venait d'arriver chez les Brewster après avoir été tiré du lit. Didi se trouvait sur les lieux depuis déjà près de 20 minutes, alors elle le mettait au parfum. La première dans le ventre, la deuxième dans le dos, entre les omoplates. Apparemment pendant qu'il essayait de ramper. Pas propre comme boulot, observa Miller. Certainement pas professionnel, le règlement de compte personnel dans toute sa splendeur. Miller se redressa et essuya le Vicks dont il avait laissé des traces sur sa moustache. Les fusillades ne sont pas seulement sales, elles puent. Les excréments, le sang, la bile, le tout mêlé et imbibant la moquette. Mais Wayne Reynolds a été tué par une voiture piégée, riposta Miller. Un travail de pro. Didi haussa les épaules. Le type n'a pas le don d'ubiquité, alors il pose une bombe pour le premier prétendant et rend visite au deuxième. Comme ça, en une soirée, il élimine ses rivaux. Vous pensez que c'est Jason Jones? Qui d'autre a des liens avec ces deux hommes? Donc Jones commence par tuer sa femme dans un accès de jalousie, puis entreprend de se venger sur ceux qu'il pense être ses amants. Eh, on a déjà vu plus dément. Miller haussa les sourcils en signe de scepticisme. Ethan Hastings? Il a fichu le camp. Peut-être qu'il a appris ce qui est arrivé à son oncle et qu'il a eu la trouille d'être le prochain. Et peut-être pas sans raison. Miller soupira. Punaise, je déteste cette affaire. Bon, alors, où est Jason Jones? Chez lui, sous la surveillance de deux agents de la plupart des grands médias. Pas des médias, corrigea Miller. Le meurtre a été annoncé sur les ondes. Le temps que j'arrive, il y en avait déjà tout le long du trottoir. Vous aurez peut-être envie de vous donner un coup de peigne avant de sortir parce qu'on fera la une des journaux demain. Et merde, on peut rien passer sous silence. Didi se tâta les cheveux avec gêne. Il y avait près de 20 heures qu'elle avait pris sa dernière douche ou s'était occupée de son hygiène personnelle. Pas le visage qu'une femme avait envie de présenter au monde. Elle secoua la tête. « Dernière chose, » indiqua-t-elle à Miller. « Dehors. » Il la suivit docilement et sortit par les portes coulissantes. Le jardin derrière était sombre comparé à la façade inondée de lumière, mais à Saouzi, les jardins, petits et pour la plupart clos, tenaient les médias à distance. Didi conduisit Miller à l'arbre qu'elle avait examiné lors de leur première visite. Celui qui avait des branches parfaites pour voir chez les Jones. Il vint alors à l'esprit de Miller que ces mêmes branches formaient une échelle idéale pour franchir la clôture du voisin. Et il voyait bien ce que Didi avait voulu dire. Sur la deuxième branche, une tache noire qui, à y regarder de plus près avec leur lampe torche, se révéla être un gant en cuir brun foncé. « Vous croyez qu'il va à Jason Jones ?» demanda Didi. « Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. » « Cache-toi !» ordonna tout bas Jason. « Dans le placard tout de suite. Tu as disparu, tu te souviens. Personne n'aura l'idée de te chercher. » Sandy restait plantée là, alors il la poussa vers le placard ouvert, la fit entrer et referma à moitié la porte. Les bruits de pas montaient maintenant dans l'escalier. Lentement, furtivement, Jason attrapa deux oreillers et les fourra sous les draps, piètre tentative pour simuler un corps endormi. Puis il s'adossa au mur à côté de la porte et attendit. Il pensait très fort à sa fille de 4 ans qui dormait à quelques mètres de là. À sa femme enceinte, dans un placard à 2 mètres. Cela le glaçait, lui donnait un calme surnaturel, le mettait dans un état second tel que, s'il avait eu un pistolet, il l'aurait déchargé à l'instant même sur l'intrus. Les pas s'arrêtèrent dans le couloir, sans doute devant la porte fermée de Rhee. Jason retint son souffle parce que si l'intrus ouvrait cette porte, réveillait Rhee, essayait de la prendre. Un petit froissement. L'intrus avançait encore doucement d'un pas, puis d'un autre. Encore un arrêt. Jason voyait une ombre sur le pas de la porte, entendait une respiration sourde, régulière. « Autant sortir maintenant, fiston, » dit la voix traînante de Maxwell Black. « Je sais que vous êtes réveillé, je vous ai entendu bouger pendant que je montais l'escalier. Ne compliquez pas les choses et il n'arrivera rien à votre fille. » Jason ne bougea pas. La lourde lampe torche métallique à la hanche, il hésitait. Maxwell n'était pas entré assez avant dans la chambre pour que Jason lui tende une embuscade. Le vieux renard restait quelques centimètres en retrait, histoire de voir dans la chambre tout en se protégeant. Le parquet du couloir craqua un peu, l'homme reculait d'un pas, puis de deux, puis trois. Je suis devant sa chambre, fiston. Tout ce que j'ai à faire, c'est tourner la poignée, allumer la lumière. Elle va se réveiller, demander son papa. Que voulez-vous que je lui dise? Que voulez-vous que votre petite fille sache sur vous? Jason s'écarta finalement du mur. Il se montra un peu, suffisamment pour que Maxwell voie son profil, mais sans exposer la totalité de son corps dans le couloir. Il cacha la lampe torche dans son dos. Un peu tard pour une visite de courtoisie, dit-il posément. Le vieil homme ricana. Debout au milieu du couloir éclairé, il se tenait devant la chambre de Rhee. Il ne bluffait pas. Une main gantée posée sur le bouton de porte, dans son autre main gantée de noir, un pistolet. Vous n'avez pas chômé ce soir, dit Maxwell qui leva le pistolet, visa quelque part vers l'épaule gauche de Jason. Dommage que vous ayez dû tuer le petit Brewster comme ça. En même temps, la plupart des gens trouvent la mort trop douce pour ces pervers. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas l'avis de la police. Je parie qu'ils sont en train de retourner tout son appartement à l'heure qu'il est, de trouver sous son matelas de vieilles lettres d'amour écrites par Sandy il y a des années. Et puis, il y a le gant égaré par ici, la branche cassée par là. Je leur donne 20-30 minutes avant de venir vous arrêter. Alors, on ferait mieux de pas traîner. De pas traîner pourquoi? Pour votre suicide, mon vieux. Voyons, vous avez tué votre femme, supprimé son amant, vous êtes rongé par la culpabilité, tenaillé par le remords. Jamais un homme comme vous ne fera un bon père, alors évidemment, vous vous tirez une balle en rentrant chez vous. Ces enquêteurs hors pair découvriront votre corps, liront votre message, ils tireront les conclusions qui s'imposent. Ensuite, j'emmènerai Rhee loin de cette triste histoire pour lui faire une toute nouvelle vie en Géorgie. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien d'elle. Jason entendit un soupir étouffé dans le placard. Il s'avança davantage sur le pas de porte pour que Max reste concentré sur lui. Je vois. Bon, ça m'a l'air d'un plan formidable, Max, mais je vois déjà une faille. Vraiment? Vous ne pouvez pas me descendre depuis le couloir. Vous devez bien avoir tiré les leçons de toutes ces affaires criminelles depuis le temps. La première chose qui trahit un faux suicide, c'est l'absence de résidus de poudre. S'il n'y a pas de poudre sur la plaie, cela signifie que la balle n'a pas été tirée par la victime elle-même. Si vous voulez que ce soit un suicide, j'ai peur que vous soyez obligé de venir au contact. Maxwell le considéra depuis le couloir. J'y avais pensé, dit le vieil homme. D'accord, venez dans la lumière. Sinon quoi, vous allez me tuer, ça m'étonnerait. Non, je vais tuer Rhee. Jason frissonna, mais il se força à dénoncer le bluff. Impossible. À vous entendre, tout le but du jeu est justement d'obtenir Rhee. La tuer serait vous tirer une balle dans le pied. Alors je vais la réveiller. Mais non, allons Maxwell, c'est moi que vous voulez. Alors allez-y. Je n'ai pour moi que mon intelligence et mon bon caractère. Venez me chercher. Jason se retira dans un coin sombre de la pièce. Il se félicitait maintenant des stores hermétiquement fermés, de l'absence d'ombre révélatrice. La chambre n'était pas grande et il ne pouvait pas courir plus vite qu'une balle à pleine vitesse, mais c'était sa chambre, celle dans laquelle il circulait à toute heure de la nuit. Et puis il avait un secret. Sandra, bien à l'abri dans le placard. Il y eut un instant de répit, puis Jason sut que Maxwell venait parce que la lumière du couloir fut masquée. Après une poignée de secondes pour accoutumer ses yeux à l'obscurité, le vieil homme entra à pas prudents dans la chambre. On frappa violemment la porte juste en dessous. « Police, ouvrez, police !» Max jura dans sa barbe. Il se retourna vers le bruit et Jason jaillit. Il traversa la pièce en trois enjambées, attrapa le vieil homme à la taille et les jeta tous les deux à terre. Jason espéra entendre le pistolet de Maxwell glisser sur le parquet, raté. En appui sur les jambes de Maxwell, Jason essayait de le plaquer au sol tout en luttant pour s'emparer du pistolet. La force nerveuse de Maxwell le surprit. Le vieil homme se tortillait et faillit se libérer. Le pistolet, merde, où était ce pistolet? Police, ouvrez! Nous avons un mandat d'arrêt à votre nom, Jason Jones! Jason grognait. Il s'efforçait de ne pas faire trop de bruit, mais se rendait bien compte que sa jeunesse ne pèserait pas lourd face à une balle et que s'il ne mettait pas la main sur ce foutu pistolet, il sentit le canon s'enfoncer dans sa cuisse. Donnant un coup de hanche vers la gauche, il essaya de dégager le bas de son corps pendant que ses mains remontaient le long des bras de Maxwell. Le pistolet se trouvait à présent entre les deux hommes qui luttaient. Maxwell arriva à lever un peu les bras. La porte du placard s'ouvrit d'un seul coup et Sandra surgit. « Arrête, papa, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, lâche-le !» Maxwell découvrit sa fille et resta ébahi pendant que le pistolet faisait feu. Jason ressentit une première douleur fulgurante dans le côté. Faible au début. Une égratignure, se dit-il vaguement. Rien qu'une égratignure. puis une atroce explosion de souffrance dans la cage thoracique. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et quelque part dans sa tête, Jason revit le Burgerman. Son air stupéfait lorsque sa première balle l'avait touché à l'épaule. Ses jambes qui ployaient sous lui, son corps qui glissait à terre pendant que Jason levait le Colt 45 pour tirer encore et encore. Alors c'est comme ça quand on meurt. Papa, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Sandy, tu vas bien ? Oh chérie, chérie, qu'est-ce que c'est bon de te voir ? Éloigne-toi de lui, papa. Tu m'entends ? Éloigne-toi de lui ! Jason roulait au sol, obligé. Mal, mal, mal. Il essayait d'échapper à cette torture. Son flanc était en feu. Il sentait ses entrailles brûler, ce qui était bizarre avec ce sang tellement mouillé. Fracas au rez-de-chaussée. La police essayait d'entrer chez lui en défonçant une porte métallique. « Oh !» eut-il envie de leur dire. « Trop tard. » Il réussit à se mettre à genoux, leva la tête. Maxwell était toujours assis par terre. Il levait les yeux vers sa fille qui tenait maintenant le pistolet en regardant son père. Les bras de Sandra tremblaient violemment. Elle tenait la crosse du pistolet à deux mains. « C'était de la légitime défense, chérie. On expliquera ça à la police. Il te faisait du mal. Je vois bien les traces de coups sur ton visage. Alors il fallait que tu t'enfuies et j'essayais de t'aider. Nous sommes revenus pour lui. Oui, pour lui. Sauf que cette fois-ci, il avait un pistolet. Il est devenu fou furieux, alors je lui ai tiré dessus. » Je t'ai sauvée. Dis-moi pourquoi tu as tué ma mère. On va rentrer chez nous, chérie. Toi, moi et la petite Clarissa, on va rentrer dans la grande maison blanche avec la galerie qui fait tout le tour. Tu as toujours adoré cette galerie. Clarissa l'aimera aussi. On pourra y mettre une balancelle. Elle sera heureuse comme tout là-bas. Tu l'as assassinée, papa. Tu as tué ma mère et je t'ai vu faire. Tu l'as saoulée. Tu l'as traînée, évanouie jusqu'à la voiture. Tu as relié le tuyau au pot d'échappement et tu l'as fait passer par la fenêtre entrouverte. Et ensuite, tu as fait démarrer le moteur avant de descendre en quatrième vitesse et de verrouiller la voiture derrière toi. Je l'ai vu se réveiller, papa. J'étais à la porte du garage et j'ai vu l'expression de son visage quand elle a compris que tu étais toujours là mais que tu n'avais aucune intention de l'aider. Je me souviens de ses cris. Pendant des siècles, je me suis endormie en sentant une odeur de rose fanée et réveillée en entendant ses gémissements pitoyables. Mais tu n'as pas cédé, tu n'as pas levé le petit doigt. Même quand elle s'est brisée les ongles sur la poignée ou fracassé les mains sur le pare-brise, elle hurlait ton nom, papa. Elle t'appelait et toi, tu es resté là à la regarder mourir. Écoute-moi, chérie. Pose ce pistolet. Sandy, mon petit cœur, tout ira bien. Mais Sandy ne fit que resserrer son emprise sur l'arme. Je veux des réponses, papa. Après toutes ces années, j'ai droit à la vérité. Dis-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Est-ce que tu as tué maman parce qu'elle me faisait du mal ? Ou bien est-ce que tu l'as tuée parce que j'étais enfin devenue assez grande pour la remplacer ? Maxwell ne répondit pas. Mais à travers un brouillard de douleur, Jason lut l'expression de son visage. Sandy également. Porte métallique et fenêtre renforcée. Après toutes ces années, elle essayait encore de maintenir son père à distance. Seulement aujourd'hui, elle avait mieux que des verrous. Elle avait un pistolet. Jason tendit la main vers sa femme. « Ne fais pas ça, » eut-il envie de lui dire. « Il y a des actes sur lesquels on ne peut plus jamais revenir, des choses qu'on ne peut plus oublier. » Mais elle en avait déjà trop fait et trop appris. Alors Sandra se pencha en avant, posa le canon du pistolet contre le torse de son père, et appuya sur la détente. En bas, la fenêtre de la façade se brisa enfin. Et dans la chambre d'à côté, Rhee se mit à hurler. « Jason, » dit Sandy. « Va la voir. Va chercher ta fille. Va voir Rhee. » Sandy laissa tomber le pistolet. Elle sortit précipitamment de la chambre pendant que Jason ramassait le pistolet, essuyait la crosse sur la jambe de son pantalon et l'empoignait à son tour. C'était ce qu'il pouvait faire de mieux, se dit-il avant que le plafond ne disparaisse dans un fondu au noir.